Ben, si vous voulez bien ouvrir votre Bible à ce chapitre 3 du livre de Genèse, on voit dans ce chapitre un homme et une femme qui prennent du fruit d'un arbre et ils en mangent. À première vue, on dirait un geste innocent, sans conséquence. Manger du fruit, on n'y voit aucun mal. On nous encourage à manger du fruit, 5 par jour. Ça, c'est à première vue. Mais à deuxième vue, ou à troisième vue, on voit quelque chose de différent. On ne voit pas un geste innocent, un geste inoffensif. On voit un geste de désobéissance. On voit un geste de rébellion et de haute trahison. On voit les premiers êtres humains se rebeller contre le Créateur de l'univers. Le Créateur qui avait tout donné et qui avait donné un simple commandement, un seul, facile à comprendre. Ne mangez pas le fruit de cet arbre. Ils ont entendu ce commandement, ils ont bien compris le commandement. Mais ils y ont désobéi. Ils ont pris le fruit et ils l'ont mangé. Nos premiers parents ont décidé de vivre indépendamment de Dieu. Et au moment de la tentation, nous l'avons vu la semaine dernière, ils ont dit, nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour être heureux, pour nous épanouir. Nous serons plus heureux sans Dieu. En ces moments, ils ont oublié toute la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la générosité de Dieu. Et ils ont dit à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Et c'est exactement ce que toute la race humaine fait depuis. Cet acte de désobéissance d'Adam a eu des conséquences pour nous tous. À l'instant même de ce premier péché, Adam et Ève sont devenus des êtres pécheurs, avec un cœur pécheur, une nature pécheresse, on dirait. Ils sont devenus, pour emprunter une phrase de Malcolm de vendredi soir, esclaves du péché. Ils ont perdu leur liberté. Et nous tous, nous avons hérité cette même nature. Et la parole de Dieu est très claire là-dessus. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché est entré dans le monde. Tous ont péché. Tous sont devenus esclaves du péché. Et ce premier acte de rébellion a donc des conséquences énormes pour toute la race humaine. Quelques secondes de désobéissance ont tout changé. Nous tous, nous subissons les suites, les séquelles de cet acte. Et ce matin, nous voulons examiner ces séquelles. Comment le premier péché a changé le monde, a changé votre monde, mon monde, votre vie. Nous verrons dans ces versets que ces versets nous aident à comprendre notre monde, pourquoi il est comme il est, à comprendre ce qui se passe dans votre vie, votre cœur. Mais peut-être le plus important, nous verrons que ces versets nous dirigent vers la solution que Dieu propose à des conséquences du péché. Ces versets nous dirigent à Jésus-Christ, celui qui est venu nous sauver des conséquences du péché. Nous verrons dans ces versets jugement et grâce. Jugement et grâce. D'abord, nous verrons jugement. Dans le chapitre 2, verset 17, nous lisons, ce sont les paroles de Dieu, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jugement de Dieu contre le péché, c'est la mort. Il n'y a pas de doute. Dieu dit, tu mourras certainement. On a vu la dernière fois que Satan avait remis ça en question, en doute. Ce jugement contre le péché est souligné ailleurs dans la Bible. L'apôtre Paul a écrit un verset que nous connaissons, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ils ont mangé, et ils ne sont pas morts, ils ont continué à vivre, ils ne sont pas morts sur le coup. Ils sont morts des années après, bien sûr, mais pas ce jour-là, comme Dieu avait dit. Alors comment comprendre ce jugement de Dieu, la mort? Il faut comprendre que l'instant même du premier péché, la mort est entrée dans la vie d'Adam et Ève. Oui, le processus de la mort physique a commencé et ils sont morts spirituellement sur le coup. La mort est entrée dans leur vie et ça a tout changé. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, la mort? Ça change tout. Rien n'est plus le même après la mort. La mort change et bouscule toutes nos relations. La mort a un effet profond sur chaque relation. Et c'est ce que nous voyons ici. Chaque relation d'Adam et Ève est bousculée et endommagée. Ils continuent à vivre, mais c'est une existence amoindrie, réduite et ternie. Pour Adam et Ève et toute la race humaine depuis, la vie sera désormais dominée par le péché et ses conséquences. C'est comme si vous mettez une petite goutte d'encre dans un verre d'eau et vous remuez comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'encre dedans, mais toute l'eau dans le verre est touchée par l'encre. Et c'est comme ça avec le péché et la mort et les conséquences du péché. Alors nous allons examiner quatre relations d'Adam et Ève qui sont touchées par la mort et par les conséquences du péché. Et la première relation, c'est la relation avec Dieu. Le péché tue la relation avec Dieu. Comment était la relation entre Adam et Ève et Dieu avant la chute? C'était une relation parfaite. Adam et Ève jouissaient de la présence de Dieu. Ils se parlaient sans empêchement, sans difficulté. Dieu avait créé Adam et Ève à son image pour le connaître, pour avoir une communion avec Dieu. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de honte, rien pour gâcher la relation entre la créature et le Créateur. Des fois, c'est comme ça avec Matthieu. Il nous voit et il est tellement content de nous voir, il crie « Papa » ou « Maman » et il court vers nous. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais qu'est-ce que nous lisons dans le verset 8? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Comme Matthieu court se cacher quand il a fait une bêtise. C'est la nature humaine. C'est ce que Adam et Ève ont essayé de faire. Ceux qui autrefois jouissaient de la présence de Dieu, ils cherchent maintenant à se cacher. Dans verset 10, Adam dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Je ne sais pas si Matthieu a peur de nous, mais des fois, moi, j'ai eu peur de mon père. J'avais fait de grosses bêtises. Ma maman a dit, « Quand ton père reviendra à la maison, il y aura des ennuis. » Et j'avais peur de le voir. Adam a peur de Dieu. Il sait qu'il a fait ce qui déplaît à Dieu. Voilà devant nous une relation parfaite, brisée par le péché. Cette relation parfaite est désormais morte. Conscient de son péché, l'homme se cache, essaie de se cacher de Dieu. Il sait très bien qu'il a offensé l'Éternel Dieu. Il sait très bien que sa désobéissance mérite le châtiment de Dieu. Sa relation avec Dieu est complètement bouleversée par le péché. Avant, l'homme était l'ami de Dieu. Maintenant, il est son ennemi. Il y a un conflit. L'homme ne veut pas que Dieu soit souverain dans sa vie. L'homme veut être le chef. Il essaie de bannir Dieu de sa vie. Nous lisons dans le psaume 10, « Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Vous voyez le conflit? L'homme est séparé de Dieu maintenant. À cause du péché de l'homme, la colère de Dieu reste sur lui. Et l'homme pécheur ne peut pas avoir de la communion avec le Dieu qui est saint. Le péché nous sépare du Dieu qui est saint. Le péché, c'est vrai, peut avoir beaucoup de conséquences dans la vie, mais voilà la plus importante et la plus grave. Elle nous sépare. Le péché, la mort, nous sépare de Dieu. Nous lisons dans Habakkuk, ça se dit comme ça, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Et c'est la plus grave, parce que cette séparation de Dieu est une séparation éternelle. Pendant cette vie, nous sommes séparés de Dieu, mais pire que ça, c'est cette séparation éternelle que la Bible appelle l'enfer. Un endroit réel, préparé par Dieu pour des pécheurs impénitents. À l'enfer, on est séparé de toute la bonté et la grâce de Dieu. Mais on n'est pas séparé de la colère de Dieu. Parce qu'on subit la colère de Dieu pour toute l'éternité. Jésus a dit que le jour de jugement, il dirait à beaucoup de personnes, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de ma présence. » Voilà ce que fait le péché dans notre relation avec Dieu. Mes amis, la pire des situations possibles est d'être séparé de Dieu, ennemi de Dieu, de subir le jugement et la colère de Dieu, entendre la voix de Dieu, mais essayer de se cacher. Savoir que Dieu est là, qu'il vous appelle, mais s'enfuir. Vous avez été créé pour le connaître, pour être proche de lui. Alors vous cacher de lui, c'est nier votre raison d'être, le but principal de votre vie. Mais pour le chrétien, nous devons reconnaître aussi que le péché empêche notre relation avec Dieu. C'est vrai qu'en Christ, tout notre péché est pardonné. Mais si nous nous éloignons de Dieu, si nous ne luttons pas contre le péché, nous ne faisons pas mourir le péché en nous. Petit à petit, le péché peut émousser notre désir d'être avec Dieu. S'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de repentance régulière de notre péché, notre cœur devient endurci, petit à petit. Et nous aurons de moins en moins envie d'être avec Dieu, de moins en moins envie de jouir de sa présence, moins envie d'ouvrir la Bible, de prier, de passer du temps avec le peuple de Dieu, quand nous supportons, nous tolérons le péché en nous. Un des grands théologiens du XVIIe siècle a dit « Soyez toujours en train de mettre à mort le péché, sinon le péché sera toujours en train de vous mettre à mort. » Et il a continué « La vigueur, la puissance et le bien-être de notre communion avec Dieu dépendent de notre mortification du péché. » Notre relation avec Dieu, pour le chrétien, la vigueur de cette relation dépend entièrement, il dit, de notre mortification du péché. Moi, j'ai connu ça dans ma propre vie. J'ai toléré le péché dans ma vie et je me suis éloigné de Dieu. Je l'ai vu dans la vie des autres. Peut-être que vous avez connu ça vous-même. Vous n'avez pas fait mourir le péché. Et petit à petit, vous êtes allé loin de Dieu. Plus envie de prier, plus envie de lire la Bible. Plus envie d'être avec le peuple de Dieu. Nous devons être constamment en train d'examiner notre cœur pour voir si le péché nous éloigne de Dieu. Si le péché nuit à notre relation avec Dieu. Y a-t-il aujourd'hui peut-être des péchés à confesser, des attitudes, des pensées, des habitudes que vous tolérez depuis longtemps? Le péché tue notre relation avec Dieu. En deuxième lieu, le péché tue notre relation avec autrui. Adam et Ève sont les seuls êtres humains d'avoir connu une relation parfaite, sans les effets du péché. Quand Adam voit Ève pour la première fois, il y a une réponse de joie et de louange. Il dit « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Il était ravi de voir son épouse. Ils connaissent une harmonie parfaite, un amour profond et intime. Ils sont complètement unis. Aucun conflit, aucune honte, innocence totale. Nous avons lu, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Il n'y a rien à cacher, rien à cacher. Mais dès que le péché entre dans leur relation, qu'est-ce qui se passe? Verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. L'innocence est remplacée par la culpabilité et la honte. Ils ne sont plus à l'aise l'un avec l'autre. Il y a une nouvelle vulnérabilité qui nuit à une relation de confiance. Le péché entraîne la désaffection et l'éloignement. Et il faut dire que ça va de pire en pire pour Adam et Ève. Quand Dieu donne à Adam l'occasion de confesser son péché, de reconnaître son tort, au lieu de confesser, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de mettre le crime sur le dos d'Ève. Au lieu de protéger sa femme, il dit que tout est de sa faute. Et quand nous lisons un peu plus loin dans le chapitre 4, nous voyons encore un exemple de comment le péché tue les relations avec autrui. Les deux premiers enfants d'Adam et Ève, le premier enfant né dans l'histoire de l'humanité, il était quoi? Il était un meurtrier. Il a tué son frère. Dans sa vie, il y avait de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme, de l'apitoiement pour lui-même. Et nous voyons aussi dans le verset 16 du chapitre 3 que ça change pour toujours la relation homme et femme. Tes désirs se porteront vers ton ami, mais il dominera sur toi. Voilà les conséquences du péché. Conflit, lutte. Et dans notre société, nous voyons ces mêmes choses. On a du mal à reconnaître ses propres fautes. Vous reconnaissez ça chez vous, homme, vous qui êtes marié? Conflit, égoïsme. Dans notre société, on voit des relations brisées, maltraitance des enfants et des femmes, la violence contre les personnes vulnérables. Sur le plan international, nous voyons des guerres, des conflits, des tensions. Et toutes ces choses trouvent leur origine dans le péché. Le refus de vivre selon la parole de Dieu. Et encore une fois, nous voyons un défi pour nous dans toutes nos relations. Est-ce que le péché, la confession du péché, fait partie de nos relations avec les autres? Est-ce que nous nous excusons facilement? J'aurais pas dû faire ça, je suis désolé. J'aurais pas dû dire ça. Ça t'a blessé, je suis désolé. L'apôtre Jacques nous exhorte, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Jésus nous dit que la confession du péché les uns aux autres est même plus importante que le culte que nous rendons à Dieu. Il dit dans Matthieu 5, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande. Nous connaissons tous comment le péché, notre péché, peut nuire à nos relations avec les autres. Mais y a-t-il des péchés que vous ne confessez pas? J'entends des fois des histoires des familles où pendant des années, les personnes ne se parlent pas. Il y avait une faute il y a des années. Quelqu'un, c'est souvent au sujet de l'argent. Quelqu'un a pris quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose et on n'a jamais pardonné. Des relations brisées, pas le péché. Est-ce que votre péché personnel nuit à une relation quelconque? Le péché tue notre relation avec Dieu, avec autrui et puis en troisième lieu avec soi-même. Avant la chute, Adam et Ève étaient parfaitement bien dans leur peau. Pas de maladie, pas de faiblesse physique ou psychologique. Ils n'ont jamais dû vivre avec une mauvaise conscience. Ils n'ont jamais été troublés psychologiquement. Aucun sentiment de culpabilité, aucune peur. On a beaucoup de mal à imaginer une telle vie. Pas de stress, aucun souci de santé, aucun regret, aucune nuit blanche à cause des inquiétudes. Aucun besoin de cacher la culpabilité, aucune honte. On n'a jamais connu une telle existence. Mais tout de suite après le péché, cette paix interne, cette innocence meurt. Verset 7, nous l'avons vu. Ils ont honte à cause de leur nudité, pour la première fois de leur vie. Verset 10, peur, mauvaise conscience. Nous avons déjà lu et chanté le psaume 32, où le psalmiste David décrit pour nous les effets psychologiques et physiques du péché. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Le péché tue la conscience tranquille et l'esprit de paix et de joie. Je n'ai pas le temps que j'aimerais bien avoir pour parler un peu plus de ça, mais en regardant notre monde, on voit la maladie, le stress, la dépression, les troubles psychologiques, l'angoisse. On n'a pas très bien dormi cette nuit et pour m'aider à dormir, j'écoute la radio de temps en temps. Et j'ai mis la radio ce matin sur le World Service du BBC. Et c'était une émission sur sur des choses assez difficiles à décrire, il faut dire. L'activité bizarre sexuelle et la drogue aussi, les fêtes organisées aux États-Unis, en Europe aussi, pour la drogue, le sexe et tout ça. Et on parlait des troubles psychologiques des gens qui participaient à ces activités-là. Et on vit dans un monde qui est troublé énormément psychologiquement. Les gens qui disaient, j'écoutais ça, c'est parfait, ça répond parfaitement à ce que je vais décrire demain. Les gens qui ont dit, je voulais m'échapper de mes problèmes, je voulais m'échapper, et ça venait de pire en pire, il fallait aller plus loin à chaque fois. Vous voyez le monde dans lequel nous vivons, qui souffre physiquement, psychologiquement aussi. Le péché tue la relation avec soi-même. Et puis, en dernier lieu, le péché tue la relation avec le monde et l'univers. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Dieu dit, verset 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles. » Verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Oui, il y a du conflit entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme, l'homme et lui-même. Mais il y a aussi conflit entre l'homme et la création. Le péché d'Adam a des conséquences pour toute la création. Avant, il y avait de l'harmonie, mais l'harmonie est morte. Il y a des versets en Ésaïe 24 qui décrivent parfaitement cette situation. La terre était profanée par ses habitants. Quand ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre. Et les habitants portent la peine de leurs crimes. Dans le verset 16, Dieu a dit que ces grossesses seront désormais très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit sur la création dans Romains 8. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est toute la création qui souffre. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus autour de nous. La mauvaise gestion des ressources naturelles, la surexploitation de la terre, des océans, le réchauffement de la planète, la pollution de l'air, des eaux. Et la plupart de ces choses-là sont directement liées à la cupidité des nations, des entreprises ou des individus. Des milliers de vies sont touchées par ces phénomènes, famine, inondation, sécheresse, pollution, séisme. Vous voyez la lutte entre l'homme et la création. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu juge le péché et son jugement est la mort. La mort entre sur scène et pour la première fois et brise toutes nos relations. Relations avec Dieu, relations avec autrui, soi-même et toute la création. Ce n'est pas ce que Satan a promis. C'est loin de ce que Satan avait promis. Il avait dit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Oui, leurs yeux se sont ouverts. Mais ce qu'ils ont vu, c'était la misère, la culpabilité, l'horreur de leur péché, la peur et la honte. Au lieu d'être comme Dieu, ils sont devenus ennemis de Dieu. Ils ont perdu leur innocence, leur pureté, leur joie, leur paix. Et mes amis, ces versets expliquent très bien votre vie, vos souffrances, vos peurs, votre honte peut-être, votre éloignement de Dieu. Ces versets expliquent le conflit que vous vivez. Ils expliquent vos soucis, vos douleurs, vos frustrations, le sentiment qui est en nous que il y a quelque chose qui ne va pas. Romains 6, 23, je l'ai déjà cité, le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève ont péché. Tout de suite, ils ont connu la mort. La Bible est très claire. À cause de sa nature pécheresse, chaque personne naît mort. Quand nous naissons, nous sommes déjà morts. La Bible parle de ceux qui sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. Donc nous devons dire que la Bible brosse un sombre tableau de la condition humaine ici. La mort, la souffrance et le conflit. Tous les conséquences de notre péché. Mais dans le verset 15, nous voyons une lueur d'espoir et de grâce. Et nous allons passer quelques semaines à considérer ce verset, mais aujourd'hui, je veux simplement dire deux ou trois choses. Dans ce verset 15, Dieu dit, qui parle à Satan, et dit qu'un jour, quelqu'un viendra qui écrasera la tête de Satan. Quelqu'un va venir qui va écraser la tête de Satan. Celle-ci t'écrasera la tête. Quelqu'un viendra pour écraser Satan, pour le vaincre et pour vaincre le mort et le péché. La mort et le péché. Dieu n'a pas simplement abandonné la race humaine aux conséquences de son péché. Quelqu'un viendra pour racheter le monde du péché et de la mort. Et celui que Dieu a promis n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans notre monde pour réparer les conséquences du péché. Le péché nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu, nous avons vu ça. Mais nous lisons dans Romains 5, nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. La relation restaurée. Nous sommes nés morts dans notre péché, mais nous lisons dans Éphésiens 2, lorsque nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Jésus a dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Satan est venu afin qu'ils aient la mort. Jésus est venu pour vaincre Satan afin que nous ayons la vie. Nous sommes nés avec un cœur de pierre. Satan nous donne un cœur qui aime Dieu, qui veut plaire à Dieu. Notre vie est marquée par le conflit avec les autres, mais Jésus nous montre que le pardon est possible. Il est possible pour nous de pardonner, car Dieu nous a pardonnés grâce à Jésus-Christ. Il est possible pour nous d'aimer, parce que nous nous rendons compte que Dieu nous aime. Savoir qu'on est aimé de Dieu, ça change tout. Ça nous libère de l'esclavage au péché. Jésus nous libère pour pouvoir aimer, pardonner, jouir des relations restaurées. Esther n'est pas là pour écouter ceci, mais ça c'est le fondement de notre mariage. La capacité de se pardonner parce que Dieu nous a pardonnés. De dire, je suis désolé, je te pardonne. Parce que Jésus-Christ nous a pardonnés. Dieu nous a pardonnés. Et dans notre Église, nous devons témoigner dans ce monde de comment Jésus transforme notre vie. Où il y avait de la peur, Jésus nous donne de la paix. Où il y avait de la honte, de la culpabilité, Jésus nous rassure que notre péché a été pardonné, effacé. Où il y avait du conflit, il nous remplit de son amour. Où il y avait un vide ou du désespoir, il nous montre le vrai but de notre existence. Il nous donne de l'espoir. L'apôtre Pierre nous dit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Et puis Jésus restaure notre relation avec la création. La Bible nous donne des promesses du nouveau ciel et de la nouvelle terre que nous verrons au retour de Jésus-Christ. Écoutez bien cette description et comment elle est différente du monde dans lequel nous vivons. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, réunis, réconciliés. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. » Voilà le monde qui nous attend si nous sommes en Jésus-Christ. Et toutes ces choses sont possibles parce que sur la croix, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. La race humaine a été condamnée à cause de son péché. Nous lisons, c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Mais dans Romains 8, nous lisons, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À Nantes, on peut visiter le mémorial de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Malcolm a parlé de l'esclavage vendredi soir. Et devant moi, je vois de nombreux mémoriaux de l'abolition de l'esclavage, du pire des esclavages. L'esclavage du péché et de la mort. Chaque chrétien est un mémorial à l'abolition de l'esclavage du péché. Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Rendons grâce à Dieu ce matin pour cette libération. Mais si vous êtes toujours esclave du péché, vous êtes sous la condamnation de Dieu contre le péché. Vous êtes mort dans votre péché, séparé de Dieu. Mais je vous exhorte à venir à Jésus-Christ. Celui qui est mort pour que nous ayons la vie et pour que nous trouvions en lui notre liberté. Soyez réconciliés avec Dieu et commencez enfin à vivre. Amen. Nous allons passer quelques minutes.